son rayonnement. Donc on m'a demandé de dire quelques mots sur mon parcours. Alors, j'appartiens à une génération qui n'a pas fait d'études d'informatique et qui donc a découvert l'informatique à travers des applications et qui s'est pris de passion pour elle au point de changer de métier et d'en faire son activité principale. Alors là-dedans, il y a évidemment il y a des astronomes comme nos grands anciens Arsac et Vauquois, et aussi comme Peter Naur, qui nous a quittés il y a 3 semaines, et dont j'aurai l'occasion de reparler. Donc moi, je n'étais pas astronome. J'étais ingénieur du génie maritime, et donc en juillet 62, je suis arrivé au bassin des Carènes de la Marine nationale. Alors c'est un établissement, je ne sais pas si vous le connaissez, il était à Paris à l'époque, il est aujourd'hui à près de Rouen, et il s'occupe d'études d'hydrodynamique, c'est-à-dire l'amélioration des formes des navires, civils ou militaires d'ailleurs, pour leur assurer une meilleure tenue à la mer et puis diminuer, augmenter leur rendement, et ceci à partir d'essais. À l'époque, c'était surtout des essais sur modèles. Aujourd'hui, ça s'est numérisé. Donc j'ai débarqué là, et quelques mois après mon arrivée, est arrivé un ordinateur. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un ordinateur. D'ailleurs, ça s'appelait à l'époque un calculateur. Donc cet ordinateur est arrivé, et c'était un ordinateur qui s'appelait Gear, de la marque danoise Règne Central. Et c'était le seul, d'ailleurs, à ma connaissance, en France. Alors pourquoi avoir choisi cet ordinateur? Moi, j'y étais pour rien. C'était une décision qui a été prise avant que je n'arrive. C'est parce que le directeur du bassin des Carènes était très ami avec son homologue au Danemark, qui était lui équipé naturellement de cette machine, et ils espéraient pouvoir échanger des programmes d'application, ce qui d'ailleurs fut fait. Donc la machine arrivant, elle n'était pas dans mes attributions, je suis quand même allé voir par curiosité. Et donc j'ai vu la machine et j'ai demandé comment ça marchait, est-ce qu'on pouvait s'en servir. Et alors on m'a donné ceci, le petit livre gris que j'ai conservé jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ce petit livre s'appelle « Revised Report on the Algorithmic Language Algol 60 ». Et il est édité par Peter Naur, qui, d'ailleurs, pour ce travail, a eu le prix Turing en 2011. Donc c'est un document de 42 pages, et c'est un texte clé de toute l'histoire de l'informatique. Alors, on m'a donné ça, et donc je suis rentré chez moi, puis j'ai commencé à regarder. Et là, j'ai eu un choc intellectuel. Un choc intellectuel, il faut voir. C'est la description complète de la syntaxe d'un langage en BNF, donc on découvre la BNF, la récursivité. Quand on la découvre comme ça, c'est extraordinaire. Donc j'ai appris le langage comme ça, alors il y avait quelques exemples de programmes, et puis donc j'ai commencé à écrire des programmes, et puis au bout de quelques mois, j'étais responsable du service informatique. Et donc, alors j'ai écrit beaucoup de programmes, en Algol 60, la machine avait 1K mots de mémoire, 1K, des mots de 40 bits. Et il y avait aussi un tambour de 32K mots. Et là-dedans, il y avait un compilateur complet du langage Algol 60, écrit par Peter Naur et son équipe. C'était une merveille. Algol 60, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un langage dont Tony Hall disait « C'est un langage qui marque un progrès notable sur la plupart de ses successeurs. » Voilà, donc j'ai appris l'informatique là-dedans avec Algol 60, donc j'ai écrit des programmes, ça allait du dépouillement d'essais en temps réel. Alors il fallait interfacer Algol avec du langage assembleur, et c'était très bien prévu. Un programme pour commander une machine à commande numérique qui taillait des modèles d'hélices. Vous voyez, il fallait fabriquer des surfaces en 3 dimensions, etc. Bon. En tout cas, ça a duré 5 ans. Au bout de 5 ans, 6 ans, donc au bout de 6 ans, bon, j'avais monté le service, j'avais fait des choses, et puis mes supérieurs hiérarchiques commençaient à trouver que je faisais trop de techniques. et que, disons, une carrière plus administrative devait m'être promise. Alors, bon, ça m'enthousiasmait que modérément. Et là, j'ai eu une grande chance, 67, la création de l'IRIA. Donc, je suis allé frapper à la porte de l'IRIA, qui était beaucoup moins structurée que ne l'est l'INRIA aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas de concours. Moi, je n'avais pas de thèse. Hein, donc, je suis allé là avec mon diplôme d'ingénieur et mes 5 ans de pratique, et j'ai été recruté. En mai 68, à l'IRIA, et je me suis trouvé dans une équipe de 5 personnes. Il y avait là-dedans 2 doctorants et puis 3 plus anciens. Et on s'est donné un objectif, on était très libre de nos mouvements. L'objectif, c'était de fabriquer sur la machine C2I 10070, alias SDS Sigma 7, un système d'exploitation sur la machine nue. Alors c'était très ambitieux pour des gens qui, finalement, n'avaient pas une expérience dans ce domaine des systèmes. Mais il faut dire que le domaine des systèmes d'exploitation, à l'époque, était en pleine effervescence. C'était la naissance, en fait, d'une discipline scientifique. C'était l'époque de Multics. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Et ça a été 4 ans et demi, 5 ans, absolument exaltant. Donc on travaillait, on avait une équipe de 5 personnes, on travaillait, on était immergés là-dedans, et au bout de ce temps, on avait un système qui marchait, un système conversationnel, donc en time sharing, et à côté, il y avait une équipe qui avait développé dessus un PL1 conversationnel. Alors PL1, bon disons, comparé à Gol 60, mais enfin bon, c'était le langage universel de l'époque, voilà. Alors ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé au sens où l'IRIA n'était pas, donc, comme je disais, très structurée. Et donc l'évaluation scientifique, c'était une notion qui leur était à peu près inconnue. C'était en gros le fait du prince, le prince étant la délégation en informatique. Donc le projet a été brutalement arrêté, alors que bon, ça marchait bien, sans trop de raison. Je crois qu'ils avaient vaguement espéré, la délégation, qu'on allait faire le produit... pour la C2I, le produit du système d'exploitation pour la C2I, à 5 personnes. Bon. En tout cas, toujours est-il que le projet s'est arrêté, donc on s'est retrouvé là. Entre-temps, on avait passé une thèse, et donc on est parti, on a émigré les 5 personnes dans toute la France. Hein. Donc moi, je me suis retrouvé à Grenoble. Alors, ça n'a pas été facile au début, parce que c'était 73-74, le premier choc pétrolier. Et les crédits, donc les premiers crédits à être coupés, c'était bien entendu ceux de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et à l'époque, donc en 73-74, c'était très dur de trouver un thésard, enfin une bourse de thèse. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est que dans mon domaine, hein, dans le domaine que j'avais choisi, les systèmes d'exploitation, c'était l'époque de Unix. Et Unix, à l'époque, ne marchait que sur PDP-11. Mais c'était absolument défendu d'acheter du matériel non français. Donc, on s'est replié, disons la petite équipe autour de moi, on s'est replié vers des travaux de génie logiciel, et ça a relativement bien marché, puisque, en fait, on a abouti à faire un système de gestion de version, ensuite ça a été transféré à d'autres personnes, et ça a fini par... une vente de licence à Dassault Systèmes, puis un laboratoire commun avec Dassault Systèmes qui a vécu sa vie plus tard. Bon. Alors, entre-temps, il y avait aussi une activité qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup passionné. C'était l'écriture collective d'un livre sur les systèmes d'exploitation. Alors, ce livre s'appelait Crocus. Je ne sais pas bien pourquoi, mais enfin, c'est comme ça qu'il s'appelait. Et c'était un travail collectif, donc un petit peu, donc, en toute proportion gardée, bien entendu, dans la ligne de ce que faisait le groupe Bourbaki pour les fondements des mathématiques. Alors, bien entendu, on était 3 ordres de grandeur en dessous, mais c'était un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on se réunissait de temps en temps, et puis entre-temps, on se réunissait pendant une semaine dans un endroit un petit peu retiré, et puis... Entre-temps, on avait une version qu'on charcutait, qu'on démolissait, etc. Première chose. Et deuxième chose, on avait organisé aussi autour de ça des écoles d'été. Alors, les écoles d'été, ou d'hiver d'ailleurs, ont fleuri. Je crois que j'en ai fait plus de 25. Enfin, je ne les ai pas recensés. Alors est arrivé 81, à ce moment-là, on pouvait acheter du matériel non français, donc on ne s'en est pas privé, on s'est lancé dans les systèmes répartis. Là, on a acheté donc des SAN, des trucs comme ça, des réseaux locaux, et à ce moment-là est arrivé aussi quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que il y avait à Grenoble un centre scientifique C2I, qui ensuite s'appelait Centre Scientifique Bulle. C'était une dizaine d'ingénieurs qui étaient là, qui étaient dans nos locaux, mais les interactions du travail qu'ils faisaient avec le reste de l'IMAG n'étaient pas très fortes. Et on a décidé de changer ça, et on a créé une unité mixte, voilà, Bulle IMAG. Et ça, ça a été le début d'une nouvelle période très exaltante, en tout cas pour moi, ou pour nous. Je pense qu'il y a des gens dans cette salle qui y ont participé. On a travaillé pendant plusieurs années, 5 ans à peu près aussi, à faire un système réparti. Alors là aussi, ça s'est un petit peu mal terminé. Enfin, mal, disons, ça s'est moins bien terminé que ça aurait dû, pour deux raisons. D'abord, Bulle, on était censé faire du transfert industriel, et pour des raisons un peu mal définies, ça n'a pas très bien marché. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le CNRS, qui évidemment gérait ces unités mixtes, il y en avait entre-temps une deuxième, qui s'appelait Verimag, avec la société Verilog. Le CNRS a décidé de ne pas prolonger ses unités mixtes sans trop donner de raison, alors que ça marchait plutôt bien. Ça marchait plutôt bien. Tant pis, alors, bon, à ce moment-là, nouvel événement favorable, est arrivé à Grenoble un centre scientifique, un centre de recherche, pardon, INRIA, et donc on s'est intégré à ce centre, et on est reparti pour plusieurs années à continuer à travailler sur les systèmes répartis. Entre-temps, les gens de Bulle, eh bien, ne sont pas restés oisifs. Ils ont créé 2 start-up qui sont sorties de ces travaux. Il y en a une que vous connaissez sûrement qui s'appelait Quelcoût et qui était rachetée par, c'était un comparateur de prix, par Yahoo. Donc ça a bien marché. Et puis une autre qui est toujours là, qui vit toujours sur une petite niche des bus logiciels à message qui s'appelle Scalagen. Technologique et basé à Grenoble. Bon, voilà, est arrivé 2007, j'ai pris ma retraite d'enseignant et de chercheur, et là j'ai découvert une activité à 2 faces, d'ailleurs corrélée entre elles. Donc Monique, ici présente, m'a entraîné dans l'association Aconit, que vous connaissez sûrement de nom, et qui gère un patrimoine et qui essaye de le mettre en valeur, un patrimoine d'objets et d'objets informatiques. Et donc, les deux faces de cette activité sont d'une part, une tentative de création d'un musée de l'informatique qui serait d'une part réparti et d'autre part en partie physique et en partie virtuelle. Et c'est devenu une entreprise nationale qui est menée d'ailleurs par le CNAM et sous la houlette de Pierre Paradinas qui est là. Bon, ça avance doucement, peut-être moins vite que ce que nous souhaiterions. Et le deuxième volet de cette activité, c'est un intérêt pour l'histoire de l'informatique. Alors évidemment, c'est corrélé. Et ça a commencé d'abord par des conférences pour le grand public. Et ça a continué cette année même par la création d'un cours, un vrai cours, à l'INSIMAG en 3e année sur l'histoire de l'informatique. Alors, je pense que j'avais milité pendant assez longtemps pour qu'on introduise des notions d'histoire d'informatique dans la formation des informaticiens. Pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait. Ça se fait, je sais que ça se fait ailleurs en France. Et donc, j'encourage tous ceux qui sont intéressés par cette activité à éventuellement prendre contact avec moi. Vous pouvez voir sur ma page web des choses que je fais en ce moment. Voilà. Donc je pense que enseigner l'histoire, ça a beaucoup, beaucoup d'intérêt. On a d'ailleurs eu à la réunion spécifique, je crois, de 2011 à Grenoble, un petit atelier à ce sujet. Hein. Donc je reviens pas là-dessus. Bon, voilà, je conclue en disant que finalement, j'estime avoir eu beaucoup de chance avec un certain nombre d'opportunités qui se sont présentées. Et donc, une fois de plus, je vous remercie.
Madame de l'Est, nous ne vous connaissons pas, on s'est un peu contacté par...